Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous avouerez quand même que fêter les 20 ans de Mauvais Genre, et je remercie publiquement en mon nom et en celui de toute l'équipe, Sandrine Trainer et toute la direction de France Culture, la communication, de nous avoir permis de le faire dans un lieu pareil. Le 104, c'est quand même la Rolls des studios de Radio France, et fêter nos 20 ans ici, c'est une joie et un bonheur. Je reviens à ma phrase, vous avouerez quand même que fêter les 20 ans de son émission comme Mauvais Genre, la semaine où disparaît Charles Manson et le jour même où Yukio Mishima se fait harakiri, c'est quand même extraordinaire. Et merci à tous d'être là pour cette commémoration. Je vous salue et je vous remercie de tout cœur. Voilà, alors nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Avec un programme assez varié, et le premier programme va pas être directement celui de l'émission Mauvais Genre, car comme vous le savez très bien, toutes et tous, avoir le feu aux fesses, avoir la folie dans le cœur ou avoir le vice dans la peau, c'est très bien, mais ce qui est encore mieux, ce qui est sans doute préférable, c'est d'avoir des papous dans la tête.
Bonsoir vous tous, bienvenue au Papou Mauvais Genre, Françoise Tressard et la belle équipe Mauvais Genre, Serge Joncourt, Violaine Schwartz, Lucas Fournier, Éval Massy, Jacques Jouet et Gérard Mordillat. Au menu des quatrains Mauvais Genre, des correspondances Mauvais Genre, un DLA genre surprise et des chansons très Mauvais Genre, dont celle du bon anniversaire. Et c'est parti avec les quatrains Mauvais Genre. Et d'abord, les quatrains genre Verdi par Jacques Jouet. Jacques Jouet, il a toujours rêvé de chanter à l'opéra.
Je lui ai apporté une tomate, mais c'est une tomate naine.
Offrez-la au public pour qu'on puisse vous la lancer. Allez.
J'ai un défaut sublime, je chante de l'opéra, je chante à plein régime, bien malin qui me fera. Terre de donne de la voix, dans le micro sous la douche, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je fais travailler ma bouche. Je connais pas la musique, pour autant je revendique de chanter sans métier, comme un hérétique. Je chante à plein poumon, et si ça vous chiffonne, de Bayreuth au Piémont, je chanterai que je suis à faune. Je chanterai le matin, le soir à la Sorbonne, j'irai chanter jusqu'à l'après-midi de la faune. Je connais pas la musique, pour autant je revendique de chanter sans métier, comme un hérétique. Erré, comme un hérétique.
Bravo. Vous voulez un bis? Non. Ce sera pour tout à l'heure. Les quatrains érotiques, attention, vous allez rougir, frémir, être jalouse peut-être. C'est Éval Massy qui les a imaginés.
Alors, c'est un titre. Mon désir est ton bel instrument. Et j'ai ajouté un sous-titre, Sex Machine ou Sex Machin. Sainte Nitouche, je disais sexe, pénis, phallos. Il m'invite à apprendre le vrai langage des rosses. Son bazar mis à nu, oiseaux en l'air, tiens, il m'en met plein les yeux et je ne dis rien. Sa flûte, sa frétillante, son dardillon, arbalète, yo-yo, appareil ou brandon. J'y imprime mes doigts en un va-et-vient, aux innocentes les mains pleines, je ne dis rien. Chipolata, merguez, carotte, poireau, asperge, flageolet, canari, moineau, pine, pinceau, pistolet, un braquemar ou bien. Il m'en caresse les seins, je ne dis rien. Je lui tâte l'andouille, clarinette, cornemuse. Fifre, quelle artillerie, sa guiguite m'amuse, son gland, son nœud, sa nouille. Où se dirige ce coquin, tête chercheuse à mes fesses, je ne dis rien. Que qui, rossignol, matraque, pistolet, la jambe du milieu, le manche à balai, suce-moi. Le pain au lait, sa gicle diluvienne, oh là là, la bouche pleine, je ne dis rien.
Remettez-vous tous, surtout vous, Lucas, vous étiez tout rouge. Oui, alors une lettre, une correspondance même, puisqu'il y aura une réponse à votre lettre, Violaine Schwartz, et c'est une lettre très fédératrice, parce qu'on a tous rêvé de l'écrire un jour à une certaine personne, n'est-ce pas ?
À l'attention de monsieur le percepteur des impôts. Je me permets de répondre aujourd'hui à votre lettre recommandée, me fixant un rendez-vous le 1er décembre prochain. Je me doute bien qu'il s'agit là de la menue monnaie que je vous dois depuis quelque temps déjà. Hélas, je me vois dans l'obligation d'annuler ma venue dans vos bureaux, dont je me faisais la plus grande joie, pour les raisons que je vais maintenant vous verser, monsieur le précepteur. J'étais méticuleusement en train de constituer mon dossier fiscal et de trier mes papiers selon une nouvelle méthode de classement absolument remarquable. Je suis en effet devenue experte en la matière et je tiens ici à déclarer que je vous en remercie, vous m'y avez grandement aidée. J'étais donc à l'ouvrage suscité lorsque mon chat, que j'ai appelé, vous allez rire, Tax, par amour pour vos services, s'est jeté brutalement sur mon bureau pour faire ses griffes sur mes papiers. Or, il se trouve que j'avais malheureusement oublié de les lui couper. Et il s'en est donné à cœur joie, si bien que maintenant, ce sont plutôt mes papiers qui sont coupés, enfin, pour ne pas dire déchiquetés. Il n'en reste que des lambeaux épars, qu'aussitôt j'ai tenté de recoller, comme je le pouvais, monsieur le prédécesseur. Mais je n'ai jamais été très forte en puzzle, et mes avis de chômage ressemblent à des factures de gaz. Ils ont perdu le plafond de leurs cotisations et le détail de leurs revenus. Bref, ils ne sont plus de référence. Devant cet échec, monsieur le préfixe, je me suis aussitôt empressée de contacter les différents organismes pour tenter d'obtenir un double de ces documents, mais je n'ai malheureusement toujours rien reçu dans ma boîte aux lettres que je n'arrive de surcroît plus à ouvrir ces derniers temps, la serrure étant déjà sans doute en pré-retraite. J'espère ne pas désorienter le planning de vos échéanciers par cette annulation intempestive. Je ne pourrais en aucun cas supporter l'idée de troubler une administration aussi admirable que la vôtre, monsieur le préemballé. S'il se trouvait par un fâcheux hasard que votre chef de service se permette de vous adresser des remarques désobligeantes concernant ce report, prévenez-moi de toute urgence, au moyen d'une lettre recommandée, comme vous savez si bien le faire. Et je ne manquerai pas de témoigner de la qualité de vos services. Permettez-moi de mentionner ici une de vos formules déductibles du revenu global. ne pas avoir de revenus ne vous autorise pas à vous soustraire à l'impôt sur le revenu. C'est magnifique. Bref, votre courrier est un modèle du genre, monsieur le prédateur, et vous n'êtes absolument pas responsable de cette annulation. Je vais prendre contact sur le champ avec votre supérieur hiérarchique. Je me propose de lui dire à quel point votre travail n'est pas facile tous les jours. Or, je ne voudrais pas non plus, et je touche là à un sujet plus sensible, vous faire perdre tout espoir quant au recouvrement de ma dette. Il arrive parfois que certains agents sombrent dans un cycle de dépression face à des revers successifs, et j'espère sincèrement que vous n'êtes pas sujet à une loi des séries qui ferait de moi actuellement le troisième ou le quatrième rendez-vous annulé de votre semaine de dur labeur. J'en serais fort contrite au centime près. Gageons que non. Mais si néanmoins c'était le cas, monsieur le préavis, ne vous laissez pas abattre sur le revenu. Gardez votre morale à la hausse pour le travail qui vous attend chaque matin en plus-value, vous en avez bien besoin. Allez donc faire un peu de sport. Annulez surtout votre tristesse hors TVA, monsieur le prédicateur, elle est surimposée. Gérard Depardieu ne vous empêche pas de dormir, alors pourquoi accorder tant d'importance à ma modeste personne et à mes non moins modestes revenus? Je tiens à vous dire encore que parmi tous mes créanciers, sachez que vous êtes à l'heure actuelle une bonne vingtaine, taxes d'habitation, voitures, scooters, EHPAD pour mes vieux parents, etc., etc. Vous êtes mon préféré, le plus fidèle, le plus prompt à réagir, le plus clair, le plus revenu de tout, le plus imposant. J'espère que cela vous remontera le moral en valeur ajoutée. Je vous prie d'agréer, monsieur le prépuce, mes annulations les plus sincères. Mademoiselle insolvable dans la dèche.
Lucas Fournier, vous allez faire un effort quand même pour elle. Elle est sympathique, elle n'a pas de fric.
Je suis monsieur Fouquet du CDI de Melun. Ah oui. CDI 758. Ah. Je lui réponds.
Oui, ça sent pas bon.
Non, j'étais content de sa lettre.
Ah bon?
Cher contribuable, si j'écris contribuable, c'est un peu par anticipation, car jusqu'à ce jour, vous n'avez pas beaucoup contribué au financement de nos chemins vicinaux, de nos crèches, de nos écoles. Ouvrez une école, vous fermerez une prison, disait Hugo. Mais cela est sans doute un détail pour vous. Et pas davantage n'avez-vous aidé à rétribuer nos infirmières si dévouées, nos valeureux soldats, nos pompiers courageux ou nos gardiens de phare. Pour vous, il n'est pas grave que des bateaux se fracassent sur les rochers parce que le phare d'Eckmühl n'a plus de gardiens faute de crédit. Il n'est pas grave que les marins et capitaines périssent en mer en laissant des veuves éplorées et de petits orphelins. Je ne porte pas de jugement de valeur. Car c'est dans le silence intérieur de votre âme que vous pourrez comprendre la gravité de votre comportement. Sachez-le, oui, j'ai été sensible à votre lettre, non par son contenu misérable, mais parce qu'elle représente malgré vous un hommage au code d'Hammurabi. Le code d'Hammurabi est, comme vous le savez, la première trace d'une écriture humaine et c'est un code des impôts. Oui, sans le fisc, peu de gens le savent, il n'y aurait pas eu Homère, Shakespeare, Molière ou Christine Angot. Cependant, je dois vous dire que j'ai lu votre histoire de chat avec lassitude. Le petit chat est fourbe, oui, mais vous êtes la 347e personne à invoquer l'excuse d'un chien ou d'un chat maladroit pour justifier un défaut de paiement. Non, l'imagination chez vous n'est pas au pouvoir. D'autres ont fait mieux. Par exemple, tenez, un producteur de cinéma m'avait écrit parce que tous ses documents fiscaux avaient soi-disant été dévorés par un varan du Komodo pendant un tournage. Un quinquagénaire de Limoux prétendait avoir utilisé tous ses justificatifs pour allumer les barbecues de la cagolade géante organisée pour l'inauguration du nouvel hôtel des impôts. Un spectateur du Tour de France jurait s'être fait voler sa déclaration d'impôt en haut du col du Glandon par Lance Armstrong, lui-même, qui cherchait du papier à glisser sous son maillot trempé de sueur avant de se précipiter dans les lacets de la descente. Mais voilà ce que vous auriez pu inventer si vous aviez eu un peu de lettres et d'esprit. Enfin, je ne relève pas votre lamento psychologique final où vous vous érigez en Françoise Dolto des petits percepteurs, en Bruno Bettelheim des employés du fisc traumatisés. Oui, on ne nous aime pas. Nous prenons trop à ceux que nous prélevons et nous ne rapportons pas assez à ceux qui nous emploient. Alors cela donne quoi? De la haine, oui. Mais aussi, Fouquet. Oui, Fouquet, le surintendant des finances, le percepteur suprême légal de Louis XIV, que dis-je, le maître du roi soleil. Oui, nous les Fouquet, nous offusquons même les plus grands. Mais nous laissons le plus élégant château de France, mais nous laissons le plus beau mystère de l'histoire dans les cachots de la forteresse de Pignerol, mais nous sommes celui par qui le sang de la France coule dans les veines de notre beau pays et abreuve ses sillons. L'histoire à jamais nous a amnistiés et nous rendra grâce. Alors, s'il vous reste un cœur, si vous avez encore une âme, si vous êtes la digne fille de toutes celles et ceux qui ont fait la France, levez-vous dès demain et payez 46 836,67 € À défaut, nous nous verrons contraints d'appliquer l'article 161 sexiel du Code général des impôts en vous réclamant la dite somme majorée au 0,3% d'intérêt de retard. Salutations, Jean Foulquet.
On voudrait avoir le même, et sympa, et très lettré. Jeu de massacre, Violaine Schwartz, c'est une chanson.
Arrêtez-vous, les pauvres gens, les petits, les ratés, les sans pain. Arrêtez-vous, les sans talent, les sans lit, les sans toit, les sans rien. Pour vous venger de vos blessures, pour vous venger de vos malheurs, pour soulager vos meurtrissures, pour chasser toutes vos rancœurs. Hop la boum dans la belle-mère, hop la boum dans le marié, hop la boum dans le notaire, hop la boum dans le banquier, hop la boum dans la belle-mère, hop la boum dans le marié, hop la boum dans le notaire, hop la boum dans le banquier. C'est le massacre des pantins innocents. Avisez bien leur pauvre gueule, puisque vous êtes tous trop veuleux pour taper sur les puissants. Et moi aussi, vivant guignol, j'ai comme récolté bien des coups. T'en souviens-tu ? Belle espagnole, mon amour si cruel et si doux. Pour se venger d'autres maîtresses, tous mes amants m'ont fait souffrir. Encore meurtri d'autres caresses, ils m'ont fait mal à en mourir. Hop la boum dans la poitrine, hop la boum dans le palpitant, hop la boum dans la bobine, hop la boum tiens dans les dents, hop la boum dans la poitrine, hop la boum dans le palpitant, hop la boum dans la bobine, hop la boum tiens dans les dents. C'est le massacre des pantins innocents. Avisez bien ma pauvre gueule, puisque vous êtes tous trop veuleux pour taper sur le président.
Les papous, c'est dans la tête, c'est sur France Culture, et ce soir c'est Mauvais Genre, en public au studio 104. Alors on continue avec d'autres quatrains. Eva, elle vient d'une région où il y a des vampires. Enfin, je crois qu'il y en a plus ou moins dans sa famille, c'est ça ?
Oui, oui, oui. Du côté de ma mère, je suis du pays des vampires.
Transylvanienne ?
Oui.
Oh.
Et donc, mes quatrains s'intitulent « Ma famille de Transylvanie ». Assoiffée de sang, tu ne saurais vivre sans, depuis que Dracula, une nuit en inocula, le besoin venimeux, tu videras à qui mieux mieux les veines bleues, ô vampire, nos cercueils sont ton empire. Ton prénom est Vlad, mais je t'appelle Blad, hémoglobine, ketchup, et le monde se dépeuple. C'est à minuit tapant que je céderai sous ta dent. Les canines que tu as. Les canines, ça me va.
Jacques Jouet, lui, il adore la BD, donc c'est un hommage à la bande dessinée.
Je suis le fils aimé, tout neuf, le consolé.
par Tintin et Milou comme par Zig et Puce. Belle Barbarella qui me bailla son lait, j'ai chevauché vers l'ouest au pas de Lucky Luke. J'ai rêvé dans les pages où Nemo, tout little qu'il était, me poussait à l'oubli de l'acné. Car aimer la BD, c'est être pas bégueule, pourquoi depuis ce temps je n'ai jamais cessé. Dans Goscinny tombé lorsque j'étais petit, rends-moi les illustrés Hakim et Kit Carson, Tarzan l'inaperçu parmi les Ouistiti, quand je dois à Paulette mes premières érections. Rends-moi les pieds nickelés et Bibi Fricotin, Corto, Raon, Zembla, lu toute la journée, le pubis de Pravda qu'est mon Mont Palatin, bande du dulciné de bande dessinée.
Il connaît tout Tintin par cœur, Jacques Jouet. Je défie quiconque, même François Enjolier, de lui faire la leçon sur le sujet. Gérard Mordillat, il a mis ses lunettes de soleil pour avoir l'air mauvais genre. Vous voyez quelque chose à travers, quand même?
Avec une canne, ça va très bien.
Alors, je me suis laissé dire que vous étiez un petit garçon et que vous écriviez à papa et à maman.
C'est exactement ça.
C'est l'été.
C'est l'été. Je suis dans un endroit très particulier.
Ouais.
Cher papa, chère maman, merci pour votre carte des Maldives qui m'a fait bien plaisir. Ici aussi, il fait beau. Il ne pleut plus depuis hier. Comme il y a beaucoup de vent, nous en avons profité pour faire sécher nos tentes. Pour nos habits, il suffit de courir au bord de la montagne et ça sèche tout seul. Maman a raison de dire que ces vacances au camp Action Fight m'endurcissent. Depuis qu'on a remplacé la telle en bois par un plâtre sur mon bras cassé, je me sens beaucoup plus dur. Surtout quand il y a bagarre obligatoire entre les bleus et les rouges. Une fois on est bleu, le lendemain on est rouge, a dit notre sergent Rambaud. Mais je n'ai pas compris pourquoi ça le faisait rire. Matricule 52-55 m'a expliqué que c'était parce qu'un jour on avait des bleus et que le lendemain on saignait. Chef Rambaud veut pas qu'on parle pendant les exercices de terrassement. Nous avons dû faire 10 fois la colline avant de revenir creuser nos tombes, comme il dit. C'est assez fatigant de monter au sommet de la colline avec un gros sac à dos plein de pierres en répétant « Je parle comme une gonzesse, c'est bien fait pour mes sales fesses !» Je suis pas sûr que ça soit exactement le même exercice abdo-fessier que maman fait sur la plage où vous êtes. Pour la nourriture, maman peut être rassurée. C'est simple et bio. Comme dit l'adjudant Gégène. Et ça l'a fait rire. 52-55, elle aime expliquer pourquoi. Mais on s'est fait prendre à bavarder pendant les pompes et nous sommes retournés faire 10 collines. Sinon, un jour, on mange des pommes de terre et le lendemain, du riz. Mais sans beurre. Sans sauce, pour pas qu'on prenne du poids. Et puis, sans légumes, pour pas avoir la courante. Et sans viande, parce que ça tétanise les muscles, a expliqué le chef Rambaud. Il y a aussi les jours où on fait survie. Une sortie en camion où on part à 50 km du camp, sans boussole, sans carte, sans provisions, avant de revenir par nos propres moyens, en nous nourrissant de ce que nous trouvons. Comme disait papa, quand il descend acheter une baguette sans prendre l'ascenseur, c'est sportif. Il y a des délais, il faut arriver avant 21h. Si on dépasse d'une heure, c'est 10 collines, 2h, 20, et au-delà, c'est 30 collines, quelle que soit l'heure à laquelle on arrive. Mais comme le départ est vers 4h du matin, c'est rare qu'on dépasse de plus d'une heure ou deux. Demain, comme tous les 10 jours, il y a décrassage des tarlouses dans la rivière, comme dit l'adjudant. Pour pas perdre de temps, nous devons nous laver et laver en même temps notre short, notre t-shirt de 10 jours, notre gamelle et notre cuillère. L'eau de la rivière est une vraie eau de source. L'adjudant Gégène y met sa bouteille de vodka à refroidir. Il paraît que c'est mieux qu'un congélo. Là, même si personne ne parle, pour faire sécher nos vêtements propres, ensuite, nous faisons tous 10 collines en répétant Sur le cul, j'ai plus un poil de sec, le premier qui chante est une tapette. Comme a remarqué le chef Rambeau, après le décrassage, vous êtes tout bleu, et après la colline, vous êtes tout rouge. Ça aussi, ça l'a fait rire. Mais 52-55 n'était pas là pour m'expliquer pourquoi. Il s'est échappé du camp. Voilà, j'aurai encore bien des choses à vous raconter, mais nous devons former la meute pour rattraper le déserteur. Et je ne voudrais pas prendre 10 collines avant la traque, parce que ça peut durer jusqu'à pas d'heure, comme dit l'adjudant Gégène. Maman, ne fais pas trop de ski en vacances. Et papa, toi, oublie le kitesurf. Rappelez-vous que vous êtes aux Maldives pour vous reposer. Pour action, fight, hip hip hip, hurra, bite au cul et jambes de bois. Matricule 52-56. PS. Maman, oublie pas le règlement. Tu dois m'appeler par mon matricule et pas mon petit chéri et ne pas m'envoyer de gros bisous, mais signer horreur. Honneur et virilité, ta mère.
J'ai l'impression que ça vous a rappelé des vacances quand vous étiez petit, non? Alors, est-ce que papa ou maman a répondu? En tout cas, c'est vous, Lucas Fournier.
Je suis le papa.
Ah bon, enchanté, oui.
Viens, mon fils, viens, mon sang, ta lettre. Mais ta lettre, c'est la clé du coffre-fort de la Banque d'Angleterre. C'est le code secret pour pénétrer dans la pyramide de Khéops. C'est la solution de l'énigme du père Fouras. C'est le glissement progressif du plaisir, du désir. Ta lettre fait battre enfin mon vieux cœur de père. Ah, mon fils, les Maldives. Triste tropique. C'est du ciel bleu et de l'eau. Bleu aussi, mais salé. Et du sable. Avec ta mère, couchée dessus, enfin sur le sable. Enfin ça, c'était avant. J'étais moi-même aussi rouge et bleu, comme toi, mon fils. Rouge du soleil de l'océan Indien, thermostat 14, et bleu à cause de ce slip kangourou, bleu pervenche en vérité, que ta mère adore me voir porter. Et il y avait la plage, toujours recommencée, comme une page de Marguerite Duras ou de Christine Angot. Parfois, il y avait un peu de vent, et je disais à ta mère, « Ma chérie, le vent se lève, il faut tenter de vivre. » Traduction, ça suffit peut-être de rester avachi dans le sable, façon tortue de mer, couvant ses œufs, genre soudain l'été dernier, tu sais, le film de Mankiewicz. Bougeons-nous ! Non, j'en étais là, de mes méditations tristes, sur le sens à la vie, dans mon resort 5 étoiles des Maldives, quand ta lettre m'est arrivée. Oh, mon enfant, dans mes bras, tout s'éclaire. J'ai compris que ton bonheur de vivre, ton expérience unique, celle que tu exprimes maladroitement, mais avec beaucoup de sincérité dans ta jolie lettre, nous allions pouvoir enfin la vivre intensément. Oui, je t'ai envié, mon fils. Hegel dit que le fils, c'est la mort du père, mais toi, tu es ma résurrection. À qui venge son père, il n'est rien impossible. Je t'explique, cette nuit, je suis descendu sur la plage abandonnée, ohé ohé, et j'ai construit non pas un château de sable, non pas un tas de sable, mais un mur de sable, façon Trump au Mexique. Non, que dis-je, un mur, une colline inspirée, plus haute que la dune du Pila. Oui, juste devant la sortie de l'hôtel, et dessous, j'ai creusé des tranchées profondes, façon Vietnam offensive du Tet, hérissées de bambous. Ah, le bonheur ce matin de voir ces hordes de touristes s'enfoncer piteusement dans le sable, sous le regard des albatros. Chaque pas était une épreuve, chaque pas était un point d'interrogation, avec pour tous cette question obsédante, pourquoi ce petit pas pour l'homme et la femme en tongs est un grand pas pour l'humanité ? Mon petit, jusqu'à présent, les chiffres pour moi ne voulaient rien dire. Ou alors si, je pensais au 51, le pastis, 70, la vodka, 1664, la bière. Mais avec ton 52-55, j'ai compris moi aussi que l'amitié peut s'écrire en chiffres. Le colonel Archibald Harway, né le 52-55, est mon nouvel ami. Il n'était comme moi que le triste mari d'une désœuvrée lézardique, beurrée de crème solaire bio. J'ai exposé à Archibald mes idées et mon plan « Make holidays great again ». Mon ami anglais, 52-55, est un ancien du génie chez les Marines. Tout à l'heure, nous avons donc truffé la plage de coquilles d'huîtres et d'oursins cachés sous le sable. Ça leur fera les pieds aux touristes. It will make their feet. Après, lui et moi avons saboté tous les tuyaux d'arrivée d'eau de l'hôtel. Comme ça, on ne se lavera plus et on boira de l'eau de mer. Enfin, nous allons vivre. Pas de repos pour les guerriers. Ah, ce sera merveilleux pour ta mère et ses copines de redécouvrir les vraies valeurs de l'humanité. Mon fils, maintenant que tu es prêt psychologiquement, viens me rejoindre. Je t'envoie un billet, invite l'adjudant Gégène. Il nous aidera à mettre le feu. Tu verras. Ici, tu seras un homme, mon fils. On piégera les noix de coco du buffet géant. On versera du Roundup sur les jacarandas. On incendiera toutes les crèmes solaires façon napalm. On fera évacuer tous les touristes par la mer sur des planches à voile façon Dunkerque. On va construire un habit antiatomique sous la plage avec plein de vodka pour boire entre hommes. Et on y chantera des chansons d'hommes. Oui, on va oublier ces vacances cauchemars aux Maldives. Tout peut s'oublier. On ne se quittera plus, mon fils. On ne se quittera plus. On ne se quittera plus. Non, alors là, je te quitte parce que j'ai vraiment très mal à la tête. Et c'est le soleil. C'est le soleil, sans doute. Ton papa.
Et on chantera la glu, Violaine Schwartz.
Il y avait une fois un pauvre gars, et l'on l'enlève, l'on l'enla. Il y avait une fois un pauvre gars qui aimait celle qui ne l'aimait pas. Elle lui dit, apporte-moi demain, et l'on l'enlève, et l'on l'enla. Elle lui dit, apporte-moi demain le cœur de ta mère pour mon chien. Va chez sa mère et la tue, et l'on l'enlève, l'on l'enla. Va chez sa mère et la tue, lui prit le cœur et s'en courut. Comme il courait, il tomba, et l'on l'enlève, et l'on l'enla. Comme il courait, il tomba, et par terre, le cœur roula. Et pendant que le cœur roulait, et l'on l'enlève, l'on l'enla. Et pendant que le cœur roulait, entendit le cœur qui parlait. Et le cœur disait en pleurant, et l'on l'enlève, et l'on l'enla. Et le cœur disait en pleurant, t'es-tu fait mal, mon enfant? T'es-tu fait mal, mon enfant? T'es-tu fait mal, mon enfant? T'es-tu fait mal, mon enfant?
Est-ce que Jacques Jouet, la grammaire serait mauvais genre? C'est vrai.
Le mot grammaire est féminin.
Oui.
Ce qui est un peu abusive. Est-ce que ce n'est pas inhumain que le genre ainsi nous prescrive? Les mots petit con sont masculines. Madame le maire, un peu les deux. Tant masculin que féminine, monsieur la fée, c'est hasardeux. Une autre heureux, ça ne s'entend que dans le vers à la française. Elle pleut serait révoltant, mère mieux que père la chaise. On ne sait jamais où l'on est, quand féminine est ma quéquette, mais masculin t'es de bonnet. Ce n'est qu'à la bonne franquette que la langue navigue à vue dans la distribution des genres. C'est bien qu'elle soit ambiguë, il n'y a pas de rime à genre.
C'est un beau texte à méditer. On le mettra sur le site, tiens, samedi prochain. Et Val Massy, elle nous fait des quatrains justement sur la langue.
Enfin, c'est mon curriculum vitae, là, que je vous présente. Et c'est un petit peu la version soft de mon poème de tout à l'heure.
Érotique?
Mais moins.
Moins, d'accord.
Avec la langue. Quand c'est avec la langue, ne dit-on pas « French kiss ». Me faire linguiste experte fut mon excuse exquise. Car voilà pourquoi, et par quelle préférence, pour étudier de près, j'étais venue en France. Assidue à la fac, fée des amphithéâtres, d'abord à Paris 7, plus tard à Paris 4, 7. Et 4, 11, le total de mes amants, que de progrès rapides grâce à ses enseignants. L'un venait d'Athènes, on a mis en praxis les mots d'origine grecque, clitoris, catharsis. Allemand, russe, marocain, le 11e, un texan. Des oh, ah, et encore, French kiss, oui, mais avec accent.
Elle est un tout petit peu obsédée, Valmassy, qui l'eût cru. On va passer à autre chose, une correspondance un peu particulière, parce qu'il s'agit d'une lettre de détestation de Mona, Mona Lisa, à son créateur. Et c'est Violaine Schwartz, Mona Lisa. Vous lui en voulez, c'est ça ?
Non mais dis donc, cher Léonard, pourquoi tu m'as pas fait de jambes ? Ça t'aurait trop fatigué, t'avais pas le temps ? Oui, je sais, tu vas encore m'enfumer avec tes théories à la con sur l'ombre et la lumière, l'art du portrait, le velouté du tracé, le clair-obscur, la technique du sfumato. Fumer, tout ça, fumer. Moi, je m'en fous, je voulais juste des pieds, tu comprends ? Et pas des pieds flous, des vrais pieds pour marcher, pour mettre les bouts, pour sortir du cadre, pour m'enfuir de cette salle du Louvre où je suis enfermée comme en prison depuis des siècles. Ma vie est un cauchemar et c'est de pire en pire. Maintenant, je suis devenue si fragile qu'ils m'ont foutue dans un caisson aux vitres blindées pour me protéger de l'air ambiant, pour m'isoler des bruits, des odeurs, des changements de température. Tu parles d'une vie de tableau. Je peux plus rien faire. Je suis coincée là, comme une idiote, face à des troupeaux de Japonais, des armées d'appareils photos, des millions de boîtes noires, c'est effrayant. 20 000 visiteurs par jour. Tu te rends compte un peu de ce que ça veut dire ? Je vais pas m'enfuir sur mes deux bras quand même. Je suis juste une femme tronc. Mais pourquoi tu m'as pas fait de jambes ? C'est dégueulasse. Tu connaissais l'anatomie pourtant. T'aimes pas les jambes, c'est ça ? Et les cuisses ? Et les fesses ? Ça te dit rien ? Ça te fait peur ? À vous ? Puceau, peine à jouir. Tu m'as posé sur mon panneau en bois et puis tu m'as jamais terminé. Bah, évidemment, c'est parce que tu cours toujours 10 lièvres à la fois. Procrastinateur chronique. On peut pas être à la fois un bon architecte, un bon écrivain, un bon inventeur, un bon musicien, un bon astronome, un bon botaniste. Faut choisir à la fin. Mais quelle mégalomanie, j'y crois pas. Et tout ça pourquoi, dans le fond ? Tu veux que je te dise ? Pour des imbéciles de touristes qui se bousculent sans rien comprendre à ton chef-d'œuvre. Enfin, ton soi-disant chef-d'œuvre. Ils voient le bout de ma mantille dans les reflets de la vitre blindée et ils sont contents. Tout ce travail pour ça, mon petit génie, c'est pathétique. Des années d'études pour une procession d'imbéciles. Et en plus, je suis obligée de sourire toute la journée comme une idiote. Ah, tu peux être fière de toi, vraiment. Le sourire, la belle idée. Tu imagines ce que ça fait de sourire comme ça, pendant 5 siècles, sans s'arrêter ? Ah ben, c'est pas très zen. J'ai les zygomatiques en compote. Je craque sous mes 45 couches de vernis. Et la robe que tu m'as collée sur le dos ? T'étais à court de couleurs, c'est ça ? Terne ! Triste ! Dégueulasse ! Une robe de veuve, de vieille mémère. C'était trop cher, le rouge garance, le bleu azur, c'est ça ? Alors tu t'es ramattu sur le marronasse. Sans penser une seconde que j'allais la porter pendant 5 siècles, cette pelure immonde. Tu m'as même pas fait de bijoux, pas de boucle d'oreille, pas de collier, rien. Ah, j'ai l'air de quoi ? D'une pauvresse. D'une pauvresse en deuil en phase terminale. Et le paysage derrière moi, tu t'es pas trop foulée non plus. Hein ? Une vague montagne, un ciel jaunasse. Je comprends vraiment pas le goût des Japonais. Qu'est-ce qu'ils me trouvent à la fin ? Ah, c'est peut-être le côté sans sourcils qu'ils émoustillent. Ça fait un peu geisha. Ah, je m'ennuie. Si tu savais comme je m'ennuie sous mon sourire. Oh, j'aimerais tant sortir du Louvre, de temps en temps. La seule chose qui me divertit encore un peu, c'est de te trouver des noms d'oiseaux. Rapia, feignasse, vieux pinceau, chiffon merdeux, boot slip, chaussette trouée, visionnaire à 2 balles, etc., etc. C'est terrible, ça ne m'amuse même plus vraiment. J'ai pas la ferveur du capitaine Haddock. Alors adieu, point barre. Signé la Joconde en colère.
Ma pauvre chérie. Il y a une insulte que je trouve pas mal, c'est boot slip. Jamais j'oserais dire ça à quelqu'un. Et vous, vous avez osé. Alors dites-moi, Serge Jonco, vous seriez Léonard ?
Oui.
Alors, il reçoit ça en pleine figure, quand même, c'est un peu violent, non ?
Oui, mais vous savez...
Vous avez l'habitude.
Je la connais, l'encadrée.
Ah.
Et
Ouais.
Je vais vous dire, j'aurais été aussi sadique que Fragonard. J'y aurais casé un livre entre les mains, le genre de gros opus, vous voyez, tenu à bout de bras. Et croyez-moi qu'après un demi-millénaire de tendinite, elle ferait moins la maline, la causeuse. Hein. Non. Mais si elle continue à râler, eh ben je vais demander à ce qu'on la délocalise. Là.
Ah bon ?
Ouais, ouais. Ouais. De toute façon, pour que les choses soient claires, j'ai déjà fait un courrier au ministre.
Ouais.
Je vous en dis pas plus, mais on va lui régler son compte à Sœur Sourire. Hein. Dans moins de 15 jours, la bêcheuse sera emballée, mise sous caisson, ouais. Direction Charles de Gaulle Air France, et hop, 8 heures de vol, et la poseuse ira se caler le sourire à l'autre bout du bout d'habit, enfin du... au bout, tout au bout, là-bas. Carrément. On va la délocaliser au musée du Moyen de l'Orient. Enfin, de l'Orient.
Oui, je vois, c'est loin.
Le Louvre d'Arabie, de France.
Oui.
Non, mais tout le monde ne connaît pas. 35 degrés à l'ombre, je vous le rappelle. Ouais. Croyez-moi qu'elle va s'intuer sous la mantille. Ça va lui activer la traclure, à Sœur Sourire. Elle a intérêt à se tartiner d'antiride, la palote, parce qu'avec 40 degrés à l'ombre et toutes les climats à fond, comme ici, je vous prie de croire que ça va lui dessécher le vernis, elle a décoiffé. De toute façon, la décision est prise. Ça sera fait. Il ne manque plus que le visa. On va la muter à
Abu Dhabi.
À Abu Dhabi, oui. Ça lui fera les pieds.
C'est un peu méchant quand même. C'est...
Quel pied ?
Oui, mais
elle n'a pas de jambes. Non, puis moi, je vais vous dire, ça me fera des vacances. Parce qu'elle se plaint, elle se plaint. Mais le plus fort dans l'histoire, c'est que moi, au départ, j'ai jamais eu l'intention de peindre la réjouie.
Ah bon ?
Moi, tout ce que je voulais faire comme tableau ce jour-là, c'était la vue de la fenêtre. Un paysage bien large. Bien dégagé, bien ouvert, vous voyez la chose, quoi. Bon, tout ce fond de la vallée, là, vous l'avez... Non, vous ne l'avez pas. Non, enfin, vous l'avez en tête, quoi. Hein.
Ouais, bah oui.
Le fond de la vallée, de la loggia, hein, avec un fauteuil vide en premier plan.
Ouais.
Métaphore de l'ennui.
Ouais.
Ah, ça aurait de la gueule, hein, ça aurait d'autre chose.
Ouais.
Eh ben non. Non, il aurait fallu que l'autre oisif se foute devant, qu'elle se plante sur le fauteuil et me bouche la vue. Non, mais c'est dingue. C'est pour ça que, quand elle me parle du paysage... Comme quoi, j'aurais pas fini le paysage. Comme quoi, il serait un peu bâclé, mon paysage. Alors, celle-là, c'est la meilleure. Non, mais dis donc, l'encadré. Non, mais je rêve, quoi. Parce que dis-toi bien que si j'ai pas pu tout caser du paysage qui est derrière toi, c'est justement parce que tu t'es foutu devant. Que je vous larde l'anecdote, puisque beaucoup de bêtises auront été dites autour de ce tableau illustre, mais raté. J'étais donc là, tranquille, à œuvrer chez le mécène. Un mécène même pas vraiment argenté. Un fripier qui donnait dans la soirée, mais qui se faisait doubler par la Chine. À coup de Black Friday, enfin bon, bref. J'étais là, peinard, cherchant l'inspiration, quand d'un coup, pris par une bouffée de chaleur, j'ouvre la fenêtre qui donne sur... Et je tombe sur cette merveille de paysage fait de rochers, de terre sèche et d'eau. Et surtout, personne dedans. C'est rare de nos jours. Hein, c'est... Bon Dieu, ce paysage. Là, l'aria florentine, là, vous savez, ondulante et douce, encadrée par une dentelle de crête. Et les prairies vides, mais pas de sens. Un grand lac dans le fond, tout ça sous la lumière calme d'une journée faite pour passer le temps. Quoi. Et l'eau de pomme se fout devant, quel gâchis. C'est pour ça que quand j'ai vu ce paysage, je dis, bon sang, s'il y a au moins un truc à voir à Florence, c'est le paysage.
Ouais.
Alors certes, bon, il manque un bout à ma route. Hein, je sais pas. Mais c'est à cause d'elle qu'il manque un bout à ma route. Ma belle route pierreuse, la pile pont, mon pont mignon, vous savez, mon petit pont médiéval à trois arches. Et ben, il se retrouve sur son épaule gauche.
Ça fait décor.
Ça fait décor, mais ça n'a pas de sens. Enfin, comme j'y voyais plus rien, à cause de la mystique, eh bien, si vous regardez bien le plan d'eau qui est derrière elle, vous y penserez ce soir en rentrant.
Ouais, ouais. Oui.
Eh ben, il penche, mon lac. Mon lac penche. Si vous regardez bien, il y a un bord du lac qui est 100 mètres plus haut que l'autre. Alors qu'à l'époque, on n'avait pas encore inventé le barrage hydraulique. Non, quand je vois ça, c'est... Je vais vous dire, j'ai honte. J'ai honte. Alors, par chance, ce tableau, personne ne le voit. Il y a toujours une rangée de 20 Chinois qui se font piétiner par des Hollandais qui sont plus grands et qui se font tasser par les Allemands derrière, juste devant les Sud-Américains qui font écran. Alors, mon tableau... Il y a tellement de touristes pour l'occulter qu'on ne le voit même plus. Avouez que j'ai de la chance tout de même, parce que le seul tableau du Louvre qui est inaccessible, c'est justement celui que je ne voulais pas montrer. Comme quoi l'artiste a toujours le dernier mot.
Et vous avez raison, parce que c'est Violaine qui, sur ce coup-là, va avoir le dernier mot en chantant « J'ai cafard », une chanson « Mauvais genre ».
Non, je suis pas saoule, malgré que je roule dans toutes les boîtes de nuit, cherchant l'ivresse pour que ma tristesse sombre à jamais dans le bruit. Je hais ce plaisir qui m'use, et quand on croit que je m'amuse, j'ai des pleurs plein mon cœur. J'ai le cafard, je le sens qui me perce comme avec un poignard la cervelle de part en part. Je me débats dans le brouillard, j'ai beau faire, je suis prise et bien prise au traquenard du cauchemar. J'ai le cafard. Quand je me rappelle les heures si belles que j'ai vécues autrefois, les gais dimanches où en robe blanche j'allais courir dans les bois. Quand je pense qu'au lieu d'être une fille, je pourrais avoir une famille, un mari, des beaux petits. J'ai le cafard, le passé c'est un truc qu'il faut mettre au rancard pour le reprendre, c'est trop tard. Et quand je vois, par hasard, des belles bosses qui comme moi n'auront que des avatars tôt ou tard, j'ai le cafard. Dans ma névrose, j'ai pris des tas de choses, éther, morphine et coco, drogues infâmes qui charment les femmes pour mieux broyer leur cerveau. En songeant que chaque goutte de ce poison qui me dégoûte mène mon corps vers la mort, j'ai le cafard, j'ai le cafard. Voyez-vous la camarde, elle est là quelque part, elle guette mon départ. Mais viens donc, j'en ai marre, peu m'importe de crever aujourd'hui ou plus tard, j'ai le cafard, j'ai le cafard.
Ah, excusez-moi, on me parle dans l'oreillette, oui. Oui, et il se passe une chose épouvantable au studio 104. Il faut évacuer. Si. Si, écoutez. Il y a des gens qui arrivent de partout. Qu'est-ce qui se passe?
Suspension de séance. On est tous tributaires de l'actualité. Et là, il nous faut intervenir puisque quelque chose de très particulier vient de se passer. Et je vais confier la gestion du dossier, la description de la situation catastrophique, l'évocation de cette apocalypse en germination à notre amie Lila Megraoua du magazine Uzbek Erika qui va vous expliquer à quel point eh bien, on est au bord du cataclysme.
Édition spéciale. Les nouvelles viennent de tomber. Le gouvernement français bannit sexe et violence des ondes. De son nouveau fief présidentiel, Station F, le président de la République, Emmanuel Macron, a justifié cette interdiction par l'ambition de faire de la France une nation leader du numérique en réaction à la politique très agressive sur le numérique du nouveau président américain et ancien patron de Facebook, Mark Zuckerberg. Ça n'a pas de sens, me direz-vous. Quel rapport entre une hégémonie numérique et la censure? Le paradis blanc, François. Alors, le paradis blanc, c'est une avancée technologique qui permettra, dès 2020, à tout citoyen français de vivre de manière totalement dématérialisée dans le cloud.
Le cloud?
Les nuages, les serveurs où se logeaient jusque-là nos données informatiques. Le cloud nous débarrassera de l'enfer et de la tyrannie des corps, et par là, de leur bestialité. Le président de la République appelle donc à un grand reboot de l'individu et à l'avènement de l'honnête homme numérique, un citoyen vertueux, éloigné de toute considération charnelle et libéré des germes de la violence, un esprit sain dans un cloud sain. Emmanuel Macron enjoint donc le service public à montrer l'exemple et la voie vers cet honnête homme numérique en bannissant ASAP des ongles, sexe et violence. François, j'imagine que votre émission Mauvais Genre devrait être la première touchée.
Absolument, si on décide par arrêt gouvernemental de bannir le sexe et la violence des ondes, eh bien Mauvais Genre va se retrouver au régime très très sec, voire condamné à une sorte de survie extrêmement pénible et difficile à imaginer. Mais c'était compté sur notre extraordinaire capacité de riposte et notre puissance de réaction et surtout notre grande capacité à retourner votre veste. Alors j'en ai parlé au maître Beer, je lui ai dit, maître Beer, imaginez une seconde que vous soyez dans l'incapacité de faire la chronique que vous faites d'habitude, bah de la manière dont vous la faites. Que faites-vous? Il m'a dit, mais peu importe, cher ami, j'ai quelque chose de prêt, je vous propose de l'écouter. En cas de bannissement de la violence et du sexe de la radio, Christophe Beer, le voici.
Ô bienveillante censure, délectable ordre moral, vous nous purifiez enfin de deux inavouables décennies au cours desquelles Mauvais Genre et France Culture s'abîmaient dans le vice, la violence et la pornographie. Nous pensions transgresser. Nous n'étions que d'inconsistants agitateurs, dansant sur les pistes fumeuses d'une prétendue liberté. 20 années d'aveuglement et de glorification absurde de ce qui n'était que pulsions fétides et provocations infantiles. Nous sauvant de la laideur qui nous violait, de son doigt majestueux, l'ordre moral nous a désigné les vrais objets d'admiration. Honte et damnation. J'étais le dithyrambiste béat de l'indigence insane, le caudataire vil des caniveaux de la pensée. Plus jamais, je le déclare, vous ne m'entendrez m'extasier sur le cinéma bis, ce cloaque purulent de la monstruosité. Plus jamais, quelle infamie, je ne sucerai d'adoration les verges présomptueuses de Tom de Finlande, ces abjects totems d'un art dégénéré. Plus de meurtres, plus d'excréments, plus de sang, plus de sperme, nos fantasmes bandent enfin d'une formidable pureté. Que giclantes, chattes ouvertes, cervelles éclatées, plaies rubescentes, arabesques de pisse cristalline, bossus difformes et nains à chondroplases, effeuilleuses infernales, disparaissez de nos yeux, de nos bouches, disparaissez de nos âmes.
Le maître Beer vient en effet de montrer à quel point la géométrie est variable, la veste peut être retournée et en tout cas, l'adaptation est extrême à Mauvais Genre. Cher ami, continuons un petit peu d'évoquer cet apocalypse uchronique,
où on est. Tout cela est fâcheux. Que va bien devenir Mauvais Genre? Chez Usbek Erika, on a fait de l'interrogation du futur notre métier. Je vous propose donc ce soir un jeu uchronique. Alors, une uchronie, pour rappel, c'est la réécriture du présent à partir de la modification d'un événement du passé, en l'occurrence ce fameux décret. Alors, scénario 1, l'orgie de la dernière chance. Tel Jean-Baptiste Grenouille au pied de l'échafaud dans le roman Le Parfum de Zuskin, avant la mort, préférez l'orgie. Libérez vos passions et célébrez un tout dernier grand sabbat. Votre réaction, François Angelier?
Bien, ma réaction, vous parlez de sabbat. Et sabbat, je peux évidemment tout de suite imaginer la sorcellerie, les bûchers, l'inquisition, les supplices et autres tourments. Et bah, effectivement, on peut aussi se poser la question, que devient en pareil cas l'encyclopédie pratique des mauvais genres de Céline Duchesnay? Mais là aussi, à la différence du maître Beer, elle ne va pas retourner sa veste, elle ne va pas faire l'apologie de ce qu'elle condamnait la veille, mais elle va bien au contraire tenter d'utiliser les instruments de la répression judiciaire la plus terrible pour continuer de feuilleter son encyclopédie.
À la lettre A comme aiguille de sensibilité. C'est une aiguille en argent longue et fine, 3 mm de diamètre pour 12 cm de longueur. Son objectif, déceler les mauvaises pensées qui peuvent agiter les âmes perverses. Dans l'honorifique lignée du Malleus Maleficarum, grand succès de la littérature démonologique du XVe siècle, l'aiguille dite de sensibilité détecte les sorcières d'aujourd'hui. Elle traque le mot sale et l'idée poisseuse, faussement endormie et tapie dans les recoins sombres de nos âmes. La technique de l'aiguille de sensibilité demande souplesse et dextérité, même si le protocole reste simple. Comme les chasseurs de sorcières d'autrefois, il s'agit tout bonnement d'introduire la dite aiguille dans une partie du corps d'un individu douteux, partie du corps que l'on gardera secrète. Menons l'expérience en plus tardé sur un sujet qui paraît tourmenté, malgré son air calme et son sourire humble. Il s'agit de Christian Eck, de la Comédie française. Plantons l'aiguille et voyons ce que cet individu tient caché au fond de son âme.
Oh, fesses. Oh. Fesses. Une fesse.
un mot interdit. Le voilà ainsi confondu. Il sera emmené sans autre forme de procès chez maîtresse Françoise, qui accueille avec dévotion les créatures vicieuses afin de les remettre dans le droit chemin.
Et voilà, comme vous pouvez le constater, même Céline Duchesnay réussit à convertir son encyclopédie pratique des mauvais genres en une encyclopédie de la répression judiciaire et de la surveillance corporelle des âmes ensorcelées. D'ailleurs, c'est une possibilité que vous pouvez expérimenter. Vous vous munissez de l'aiguille de sensibilité, vous piquez, vous picotez, vous perforez le corps tout entier de votre conjoint ou votre conjointe, et vous saurez ainsi si cette personne est digne de vous et si elle n'est pas effectivement ensorcelée.
J'allais vous proposer un scénario 2, mais vu ce qu'on vient d'entendre, je vais plutôt passer au scénario 3, à savoir le bateau pirate. Alors, je vous propose de devenir les Amish des nouvelles technologies. Au lieu de servir le devenir d'un honnête homme numérique, promis à une aseptisation dans le cloud et privé des plaisirs de la sensation, abandonnez toute velléité numérique. Et mettez analogiquement 100 ans, où que vous soyez, sur un bateau pirate par exemple, baptisé Ici mon désir et ma loi, votre figure de proue est toute trouvée, en la personne de Sixtine Audebert, en fond de cale, vous continuerez à diffuser les fleurs toxiques qui habitent depuis 2 décennies votre émission. On peut trouver des exemples dans le passé, les radios pirates des années 60, ou tenez, prenons le cinéma américain post-années 30, sous la coupe d'un code AIDS qui censurait toute sexualité à l'écran. Ce même cinéma américain hackait ce code pour mieux batifoler hors et à l'écran. Souvenez-vous de la très subtile réplique de Mae West dans « She done him wrong », là dans votre poche. C'est un pistolet ou vous êtes juste content de me voir ? Mauvais genre et son jardin de fleurs toxiques ne dérogeront pas à cette tradition d'ingéniosité. Interdisez les passions, la transgression et la perversion repousseront plus entêtantes, plus charnues. Là est ma prédiction, mon cher François.
Merci Lila, merci donc pour ce jeu uchronique ouzbek Erika.
Vous êtes bien sur France Culture, avec les papous dans la tête, mauvais genre, et on est heureux que les mauvais genres soient sauvés. Bah, François Angelier.
On va prendre la mer avec un vaisseau corsaire pour émettre depuis la mer, les côtes lointaines et continuer à pervertir les hommes.
Alors, on a invité François à notre table.
Et
évidemment, c'est son anniversaire, c'est ses 20 ans, c'est le héros de la fête. Et donc, on va le piéger, enfin, essayer de le piéger. Voilà. Vous connaissez le DLA, diagnostic littéraire à l'aveugle. J'ai chargé Jacques Jouet de chercher un bon petit texte bien piégeux qu'il va nous proposer de façon anonyme, distribuer le texte aux experts, Serge Joncourt, François Angelier, Gérard Mordiga et Eva Almassi. Et donc, eh bien, ce texte, il faudra le décortiquer pour arriver à le faire parler, lui faire dire son époque d'écriture et des tas de petites choses comme ça qui permettront d'arriver pas à pas vers un nom possible d'auteur. Vous allez tout comprendre, on écoute Jacques Jouet.
Je lui ai rendu son salut d'une poignée de main légère, presque imperceptible. J'étais affectueux, aimable, mais sans manifester d'érotisme. Elle est assise sur le sofa devant la table à thé et moi sur une chaise à côté d'elle. Une solennité radieuse plane sur la situation, une douce lumière matinale. Elle est silencieuse, rien n'interrompt le calme. Mes yeux glissent sur elle doucement, sans convoitise, ce qui serait effronté. Une rougeur fine et fuyante, comme un nuage sur les champs, passe sur elle et dépérit lentement. Que signifie cette rougeur ? Est-ce de l'amour, du désir, de l'espoir, de la crainte ? Car la couleur du cœur est le rouge. Rien de tout cela. Elle s'étonne, elle est surprise, non pas de moi, ce serait trop peu lui offrir. Elle s'étonne, non pas d'elle-même, mais en elle-même. Elle se transforme en elle-même. Cet instant exige le silence. C'est pourquoi aucune réflexion ne doit venir le troubler, aucun bruit de passion le rompre. C'est comme si j'étais absent. Et pourtant, c'est justement ma présence qui est à la base de sa surprise contemplative. Nos natures sont en harmonie. C'est dans un tel état qu'une jeune fille, comme quelque divinité,
est adoré par le silence.
Bon, c'est un beau texte, non ?
Ah oui.
Vous l'avez compris, il n'est pas facile, il ne se donne pas comme ça. Alors je vais quand même demander à nos quatre experts d'être francs. Si l'un d'entre vous connaît ce texte, ben, il sort du jeu, forcément, et il sera remplacé. Serge, vous le connaissez, mais vous ne le connaissez pas ? François, non plus ?
Non, inconnu au bataillon.
Bon, on a cherché à vous piéger parce qu'on sait que vous connaissez plein de choses.
Vous y êtes arrivé, François.
Eva, Gérard ? C'est bon, alors on peut jouer. Oh, quelle merveille. Qui a quelque chose à dire comme ça, une première impression ? Serge Joncourt.
Ouais. Une première impression ?
Oui, comme ça.
Oui, ben on est dans le gazeux, là. On est dans le...
Dans le gazeux ?
Non, enfin, ce que je veux dire, c'est pas péjoratif.
Non,
je suis moi-même assez gazeux, j'ai pas l'air.
Oui, c'est vrai. Oui.
Non, c'est-à-dire qu'une chose est sûre.
Oui.
Ça n'est pas, en termes de genre,
oui,
un roman érotique. Parce que à ce rythme-là, on n'est pas arrivé à nos fins. Hein, parce
on n'est pas couché. Hein.
Si la jeune femme est en train de s'étonner, non pas d'elle-même, mais en elle-même, alors que, au même moment, le bonhomme est étonné que ce soit sa présence qui soit à la base de sa surprise contemplative.
Non, mais attends, il faut une dizaine d'années pour que ça se passe, non ?
Pardon, je sais que c'est Jacques qui a choisi
c'est Jacques
ce texte.
Qui a choisi,
et
oui.
Et quand un auteur choisit un texte comme ça, il le propose au diagnostic littéraire à l'aveugle, il révèle de sa personne.
Oui.
Il nous dit quelque chose. Et ce que nous dit Jacques est très beau. Mais je ne vois absolument pas d'où ça vient.
Bon, c'est un premier point de vue. Val Massy, une impression sur la langue d'écriture, peut-être.
Sur la langue d'écriture, je pense que ça peut être en français comme ça peut être traduit, puisqu'il n'y a rien de saillant, justement. C'est comme la continuation un peu de la chronique de tout à l'heure, comme si tout sexe et tout sang étaient interdits. Mm-hmm. On a énormément de mots négatifs, les sang, mais c'est pas sang avec un G, hein, c'est sang avec un S, aucun. Donc, moi, j'ai pensé soit à la petite sirène, soit à la belle au bois dormant, carrément.
C'est trop tôt pour donner des noms ni des titres. Gérard Mordilla, impression favorable ?
C'est une impression mitigée, parce que c'est à la fois, on dirait, un texte qui est du roman de gare, genre Marc Lévy, parce qu'il y a des choses où il y a la poignée de main légère, la solennité radieuse, la douce lumière, les natures en harmonie, car la couleur du cœur et le rouge sont quand même des portes ouvertes et enfoncées largement. Puis en même temps, il y a dans le texte des choses qui sont plus délicates et plus jolies. Et puis, il y a cette chose très intéressante où, sans arrêt, l'auteur se défend de ce qu'il écrit sans manifester d'érotisme, sans convoitise. Mmh. Et puis là, il glisse une chose qui est plus raffinée, ce qui serait effronté, une sorte d'auto-ironie. Mmh. Donc c'est un texte ambigu, quoi, parce que il y a à la fois des choses qui sont très belles et des choses qui sont des platitudes affreuses.
Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec François Angelier ?
Ben, plutôt, oui, parce que je suis un peu loin de mes bases, là. C'est tous ces gens qui hésitent. C'est dans l'ordre du picotis, de la diversion, de l'hésitation, de la contemplation suave, on est dans l'aurore au doigt de rose. Ben, je suis pas vraiment habitué à tout cela. Mauvais genre. Je note quand même au cœur du texte cette phrase, la couleur du cœur et le rouge. Il y a bien un moment où ce monsieur décide un peu de passer à l'action, puis après, tout se décompresse, tout s'effondre. Rien de tout cela. Donc, d'une certaine façon, c'est un grand texte sur l'hésitation, à moins qu'évidemment, dans la phrase qui suit, brusquement, il passe à l'action bestialement, de manière foudroyante, de manière à déconsidérer complètement cette mise en bouche et cette première esquisse, ce premier prélude.
Bon, alors j'en déduis que pas grand monde ici aime ce texte. Vous l'aimez dans la salle ? Ah ben, et quand même, il y a quelques oui très courageux. Bravo. Ouais. Dites-moi, Serge Joncourt, je sais bien qu'il n'y a pas d'écriture masculine ni féminine, il y a toujours des débats là-dessus, mais il faudra nommer un auteur, ce sera ou une femme ou un homme. Qui a pu écrire cela ? C'est plutôt masculin ou féminin, comme pensée, comme démarche ?
On sent que vous avez ces questions.
Vous êtes un expert.
Ce serait pour goûter un verre de vin. Je pourrais peut-être vous aider, mais là,
oui.
Comment vous dire ça? Je ne sais pas qui ça peut être. Ouais, d'une certaine façon, je le plains déjà. Enfin, je veux dire... Non, mais c'est une calamité. Hein. Je ne sais pas si le roman est long ou court.
Alors, ça appartient à quoi, justement? C'est peut-être une nouvelle.
Je pense.
Oui, vous croyez?
Je pense que c'est une nouvelle très courte. Et il est centré sur l'essence même de ce qui fait l'intérêt de son texte. Autant dire que ce n'est pas grand-chose, quoi. Mais en même temps, attention, parce que celui qui est capable de nous faire le coup de la table de thé et le type assis à côté du sofa qui nous en fait une page, il peut...
Subitement.
Pour peu qu'il prenne le transsibérien ou que sais-je, ça peut durer l'affaire. Je ne vois pas, j'arrive même pas à définir... Je vais vous dire une chose. Il n'y aurait pas la table à thé, j'aurais pensé à Bambi.
Alors, on est dans le conte de fées déjà avec Eva Almassi.
Ben oui, il y a un peu de ça, oui. Oui, ou alors le roman de science-fiction, mais c'est une sorte de faille temporelle dans un roman de Barjavel, vous voyez.
D'accord, c'est pas ça... inintéressant ça. Vous rejoignez cette idée, Gérard Mandia?
Oui, moi je pense qu'il y a peut-être un genre qui serait le pastiche. C'est-à-dire que ce texte que je sens comme un texte double pourrait être... d'un auteur qui, justement, à l'intérieur d'un roman, pastiche quelque chose qui est de l'ordre du roman sentimental.
D'accord, oui, Val, merci.
Ou alors c'est un roman sentimental qui se passe en 3121.
Anticipation.
Oui. Et à ce moment-là, cette jeune fille qui ressemble à une poupée Matrioshka, puisque d'abord elle est rouge, ensuite elle est en elle-même et par elle-même, et encore elle se transforme en elle-même, comme si on défaisait des poupées, et c'est toujours encore la même chose. Mais à la fin, les deux natures s'harmonise. Ah. Donc c'est peut-être une espèce de robot ou d'extraterrestre qui peu à peu va devenir humaine.
Bon, François Angelier, ça se trouverait
Moi, j'y vois
dans un gros roman qu'on va lire sur la plage avec passion, peut-être.
Pas franchement un gros roman sûrement, parce que je suis plus favorable à la thèse du gros roman. Et ça en est un des moments interminables d'un processus lui-même indéfini. Parce que si ça continue à ce rythme, il faut bien 800 pages pour qu'on en arrive à un poutou ou un bisou quelque part. Hein.
Et c'est plutôt au début?
Pour moi, c'est plutôt 1900. Moi, je verrai. Ah oui, c'est plutôt au début. Bah, j'espère que c'est au début. Parce que si c'est à la fin, bonjour la première partie. Mais je veux dire, j'ai plutôt le sentiment de quelque chose de belle époque. Ça, c'est avant 14. Hein. Après 14, 18, on ne peut plus être sur la table à thé et j'ai assis sur le sofa, là.
Elle est devant la table à thé, elle n'est pas sûre encore.
Ah, mais elle est assise sur le sofa. Mais enfin,
ça irait peut-être plus vite si elle était sur la table.
C'est des allonges. Non, c'est vraiment avant-guerre.
Jacques Jouet, vous voulez bien nous relire ce texte, peut-être en y mettant un peu de fantaisie pour qu'il y ait un éclairage différent.
Ah, d'accord.
Un peu de vivacité.
Je lui ai rendu son salut d'une poignée de main légère, presque imperceptible. J'étais affectueux, aimable, mais sans manifester d'érotisme. Elle est assise sur le sofa devant la table à thé et moi sur une chaise à côté d'elle. Une solennité radieuse plane sur la situation, une douce lumière matinale. Elle est silencieuse, rien n'interrompt le calme. Mes yeux glissent sur elle doucement, sans convoitise, ce qui serait effronté. Une rougeur fine et fuyante comme un nuage sur les champs passe sur elle et dépérit lentement. Que signifie cette rougeur? Est-ce de l'amour, du désir, de l'espoir, de la crainte? Car la couleur du cœur est le rouge. Rien de tout cela. Elle s'étonne, elle est surprise, non pas de moi, ce serait trop peu lui offrir. Elle s'étonne, non pas d'elle-même, mais en elle-même. Elle se transforme en elle-même. Cet instant exige le silence. C'est pourquoi aucune réflexion ne doit venir le troubler, aucun bruit de passion le rompre. C'est comme si j'étais absent, et pourtant c'est justement ma présence qui est à la base de sa surprise contemplative. Nos natures sont en harmonie. C'est dans un tel état qu'une jeune fille, comme quelques divinités, est adorée par le silence.
Je trouve qu'il se passe plus de choses à la relecture, non, Eva Almassi?
Oui,
sans
et puis,
moi j'étais prise un peu, non, pas vous, dans la salle? Oui, bah vous voyez, ah oui, quand même.
En tout cas, c'est pas le tout début, puisque je lui ai rendu son salut. Donc, avant, il y a au moins le ciao. Et je pense soudain que ça devrait être quand même une traduction, parce qu'il y a une petite anomalie avec cette poignée de main légère, presque imperceptible. Ce n'est pas à celui qui donne sa main qui a jugé que c'est imperceptible. Lui, il est dans le sens kinesthésique, tandis que c'est l'autre qui est dans le sens tactile. Donc, on peut pas dire « je vous donne un coup de main imperceptible », c'est totalement absurde.
Ou intéressant.
Oui, enfin, soit l'auteur, soit le traducteur, mais quelqu'un s'est un petit peu mépris, je pense.
C'est traduit, Serge Joncourt.
Bon, ben, écoutez...
Non, parce qu'il va très vite falloir donner des noms.
Oui, non, je vois... bon, les traducteurs sont...
Ils sont très bons.
Ils sont très bons.
Et sans eux, on ne connaîtrait rien de la littérature.
Justement, je ne vois pas un traducteur se lancer là-dedans. Enfin, non. Non, parce que parfois, le traducteur apporte, enfin, sent un peu la... Il aurait intensifié un peu l'affaire, quoi. Alors, à moins qu'on soit dans la méprise totale, c'est-à-dire que c'est une sorte de métaphore, la jeune fille, on parle d'autre chose, peut-être.
Ah.
D'une pomme, d'une statue, d'une morte, je pensais.
Ah ouais.
Je dis, peut-être morte, en fait. Une pomme morte, enfin
une pomme morte.
Une sorte de nature morte.
Ou une feuille, oui, c'est, une feuille morte.
Oui, il y a quelque chose, il y a de cette poésie-là, vous savez, celle qu'on n'arrive pas à approcher, mais qu'on...
Mais on est séduit, en général.
En général, oui.
François Angelier, est-ce que ce texte petit à petit vous séduit, vous aussi ?
Ben, ça repose, en tout cas.
Oui, oui voilà. C'est
je veux dire, après la lecture de quelques romans noirs américains, de quelques...
Oui.
Le visionnage de quelques films italiens ou de dessins animés japonais, une page comme celle-là vous rend une certaine sérénité de l'âme avant de repartir au charbon ou au combat.
Voilà, et on boit une petite tasse de thé et on est bien.
Si vous voulez, à mauvais genre, les jeunes filles comme des adorées par le silence, c'est assez rare.
Mais je ne sais pas, je vous trouve très critique, je trouve ça très beau. Moi, une jeune fille adorée par le silence, c'est beau, non, Gérard ? Sauver ce texte.
Ça, c'est une belle fin parce que...
C'est Jacques Jouet qui l'a choisi. En général, il choisit ce qu'il aime, Jacques Jouet.
J'ai une théorie qui se vérifie... À coup sûr, c'est que le dernier mot d'un livre est toujours son meilleur résumé, le point de vue de son auteur sur ce qu'il vient d'écrire. Là, c'est silence. Alors, c'est pas du Bergman. En même temps, c'est curieux parce que on dirait que c'est presque la décalque d'indications scénaristiques. Hein ? Elle est assise sur le sofa, bon, pour la déco, devant une table de thé, voilà. Moi à côté, donc prévoir une chaise pour lui à côté. Elle est silencieuse, bon, que l'actrice sache qu'elle n'a rien à dire. D'ailleurs, plus loin, cet instant exige le silence. Enfin, il y a des indications comme ça d'un auteur qui aimerait le cinéma d'une certaine façon et qui, plutôt que de faire vivre la situation, la décrirait pour donner des indications à ses collaborateurs.
Ben, c'est pas bête, ça. Hein, Eval, merci. Est-ce que vous avez des choses à ajouter avant de lâcher des noms ? Attention, vous allez jouer, vous aussi. Dernière réflexion, Serge, on y va courageusement. On ne sait pas si c'est une traduction ou si c'est du français. On a une vague hypothèse de François Angelier sur les années 10-14. Ouais. Et puis, c'est tout. Et il va falloir donner un nom.
Oui.
Enfin, ça pourrait être cinématographique, ça pourrait être un conte pour les enfants.
Ah, pour les enfants, quand même.
Ah, ben, vous avez parlé de La Belle au bois dormant.
Ah, dormant, oui.
Alors Serge Joncourt, allez, je vous sens courageux, prêt à dire quelqu'un.
Non, écoutez, oui, bah oui, je vais donner un nom, je suis un peu obligé,
bah oui,
c'est un peu le
oui,
c'est un peu plus du jeu
quoi.
Oui,
hein, bon.
Ça aurait pu être Maupassant pas en forme ou en fin de nouvelle, vous voyez quoi.
Ouais.
Non. Et j'ai pensé peut-être à Huysmans dans À rebours, à un moment où il y a
oh, il ne se passe vraiment rien, alors, parce que...
Bah oui,
à rebours, c'est foisonnant.
Non, pas tout le temps.
Non.
Non, je veux dire, prenez le chapitre 11. Ça pourrait être entre le chapitre 11 et le chapitre 12. Vous savez, le chapitre 11, c'est quand il veut partir en délire jusqu'à Londres, et puis finalement, comme il se met à pleuvoir, il fait demi-tour. C'est passionnant. Moi, je l'aime beaucoup. Le chapitre 11 d'Arbour, je vous le assure. Bon. Il y a un peu de ça. Alors, c'est une scène qui ne m'a pas marqué.
D'accord.
Bizarrement.
Donc, pas Maupassant, je note, mais Huysmans, oui, pour enfin, Serge Joncourt.
C'est vraiment pour...
Pour dire quelque chose.
Oui, oui. Oui. Mais enfin, il y a un raffinement, il y a un décorum, il y a un vocabulaire.
Le sofa,
il y a un vocabulaire.
Pourrait être...
Tablaté, sofa, allez, oh. Ça, c'est pas chez Frédéric Dard.
Eva Almassi, un nom.
Alors, comme c'est un texte tout en négation, je vais commencer par dire ce que ce n'est sûrement pas.
Ah oui, mais là, il y en a beaucoup.
Oui, hein. Non, mais c'est sûrement pas le surmal de Jarry. Ça, ah, je vous garantis. Oui, oui. Ça n'est pas non plus Boris Vian qui, quand il y a un invité qui arrive et il lui dit « Faites comme chez vous », il siffle une bouteille de whisky et se masturbe pendant une demi-heure. Donc, après ça, ça pourrait être les grands impuissants de la littérature, Cesare Pavese ou Gary, mais je pense que c'est plus du genre science-fiction, donc je dis Stanislav Lem.
Ah oui.
Genre créature répliquant ouais, de Solaris. Mais enfin, c'est plus dense en général.
Ah
mais
oui, oui.
Il y a quand même du thé, il y a du rouge.
Il y a du thé partout.
Voilà, sofa.
Bon, alors, science-fiction, François Angelier, vous approuvez le choix de Eva Almassi?
Ah non, moi, je n'ai pas pensé à Stanislas Lem. Alors là, vous ouais, me sidérez. Non, non, moi, je voyais plutôt au départ un Proust surpris en plein footing matinal. Après, j'ai obliqué vers un Chardon rêveur et je finis par conclure, c'est de René Boilève.
De qui?
René Boilève, scène d'amour dans un parc.
Alors,
les parfums des îles Boron.
Voilà, c'est ça, évanescent, délicat, auroral, subtil, soyeux.
René Boilève, oui.
René Boilève.
D'accord, d'accord. Bon, c'est votre choix, hein, de toute
c'est
façon.
C'est la première fois, hein,
qu'on c'est la première ici. Fois qu'on sort ah, oui, ce nom au papou dans la tête
c'est
dans
ma
le DLA.
C'est ma vraie mission ce
bravo,
soir. René, on ne t'oublie pas.
Gérard Mandilla, alors pour vous, c'est qui?
Alors, j'ai hésité. D'abord, j'ai cru que c'était Catherine Pancol. Et comme je crois qu'elle ne connaît vraiment rien au cinéma, non, je pense que c'est Georges Simenon.
Ah, il a tellement écrit. Oui, ça peut être quelque part. Hein? Alors, je résume la situation. Nous avons un Huysmans pour Serge Joncourt, un René Boilève pour François Angelier, un Stanislas Lem pour Eva Almassi, un Georges Simenon pour Gérard Mordilla. Y a-t-il parmi ces quatre noms le nom ou un des noms de votre liste de trois, puisque Jacques Jouet a évidemment préparé une liste de trois auteurs parmi lesquels figure le vrai?
Hélas, non.
Vous avez perdu tout. C'est pas René Boilève. Alors là, je suis vraiment désolée, François. Navré.
Là, je suis morfou.
Alors, vous allez nous donner les trois noms, Jacques Jouet.
Alors, les trois noms auxquels j'ai pensé, Simone de Beauvoir.
Ah. Oui.
Søren Kierkegaard. Et François-René de Chateaubriand.
Alors, Beauvoir, Kierkegaard et Chateaubriand, que du très beau monde quand même. Eva Almassi.
Moi, je vais choisir Kierkegaard.
Pourquoi?
Pour le journal d'un séducteur, je vais le choisir parce que le...
Donnez-moi une phrase qui vous fait penser
voilà,
à Kierkegaard. Voilà,
le mot réflexion.
Réflexion.
Aucune réflexion, au contraire, il ne fait que ça, réfléchir, voilà.
Un Kierkegaard, un Gérard Mordilla.
Moi aussi, je penche pour Kierkegaard.
Mais aucun d'entre vous n'y avait pensé avant.
Non.
Ah non, alors vraiment pas.
Mais ça m'expliquerait justement cette ambiguïté du texte qui hésite entre des choses qui me paraissent d'une grande banalité et d'autres qui me paraissent plus amusantes, plus pensées, comme ce qui serait effronté, glissé comme ça. Simone de Beauvoir, je sais qu'au papou, dès qu'on voit un texte mal écrit, on dit c'est Simone de Beauvoir. Bon, on pourrait dire Bourdieu, mais il n'a pas écrit de roman. Quant à Chateaubriand, j'avoue humblement n'en avoir jamais lu une ligne. Donc, Kierkegaard.
D'accord, deux Kierkegaard. François Angelier.
Beauvoir. Ah oui, Beauvoir.
Alors,
je rejoins l'analyse
avec un argument
de Gérard Mordilla. Oui. Il y a là une élégance, une gaucherie maquillée en élégance qui fleure bon la jeune fille rangée.
Très bien, très bien. Et pour Serge Joncourt, ce sera...
Un Chateaubriand, mais bien...
Oui, voilà.
Un Simenon.
La couleur du cœur est le rouge. Oui. Bien épais. Bien rouge. La béarnaise.
Saignant.
Dans la table à thé.
Saignant.
Alors, dans la salle, je vais vous dire des noms, puis vous me dites oui si vous pensez que c'est ça. Alors, c'est un texte de Simone de Beauvoir.
Oui.
Hey, ils sont assez nombreux, hein. C'est un texte de Kierkegaard.
Oui.
Ils sont plus nombreux. Là-haut, vous votez aussi, hein.
Oui, le paradis peut voter.
C'est un texte de Chateaubriand.
Oui.
Hey, entre Kierkegaard, Chateaubriand, ça se tient. Il y en a qui n'ont pas voté.
C'est les mêmes, c'est René Poilève, ceux-là.
Merci de votre sincérité.
Vous les noyautez par le club des admirateurs de René Poilève.
Alors, je récapitule, la salle est très partagée, peut-être un tout petit peu moins pour Beauvoir, quoique. Ici, sur scène, nous avons un Simone de Beauvoir. C'est le choix de François Angelier, un choix très affirmé. Nous avons deux Kierkegaard pour Eva Almasti, Gérard Mandia et un bon petit Chateaubriand. Pour Serge Joncourt, avec des frites.
Et la béarnaise.
Et la béarnaise.
Y a-t-il un ou plusieurs gagnants, Jacques Jouet ?
Mais il y a deux gagnants à la table et puis d'autres dans la
ah.
salle. Mais avec une prime à Eva Almasti qui a nommé en plus le titre du livre.
Alors, c'est de Kierkegaard.
Kierkegaard, donc. Journal du séducteur, oui.
Bravo !
Kierkegaard traduit par Simone de Beauvoir.
On est à peu près au milieu du livre et effectivement, l'action a commencé dans toute la première partie. On en est là. Il y a encore toute une partie avant d'arriver vraiment à l'événement, c'est-à-dire l'acte d'amour, l'acte sexuel.
Oui.
Et au moment où l'acte est fait, le séducteur s'en va.
Ah.
En disant cette phrase horrible, je ne désire plus jamais la voir. Il a mis tout ce livre pour la séduire.
Ah. Très bon choix, en tout cas, Jacques Jouet. Les papous dans la tête. Sur France Culture, soirée mauvais genre, en public. Restez avec nous,
ah bah,
François Angelier.
Et comment ?
C'est l'heure de la chanson par Lucas Fournier, la chanson du bon anniversaire.
Oui, c'est ah bah, plus qu'une chanson de bon anniversaire, c'est un hymne.
Voilà,
oui, c'est la main sur le cœur.
C'est un hommage à vous.
Je dis le cœur.
Avec la façon si jolie qu'a Lucas de chanter.
Oui.
Comme quoi la méchanceté est partout.
Depuis 20 ans, ce que l'on aime, tous les samedis, c'est le fantastique. La bande FM devient SM et France Culture est onirique. La TSF fait de la SF et l'on s'embarque pour l'insolite. Mauvais genre, y a du polar plein la radio et des zombies. Mauvais genre, c'est du bizarre, c'est du maso et de l'esprit. Angelier, il nous fabrique un train chimère qui va un train d'enfer. Mais ce train met en déroute le conformisme et la langue de bois. Un angevin venu d'Angers n'est pas un ange, mais un démon. Quand vous écoutez Angelier, il vous enjôle façon Macron. Un rêve étrange et familier, le mauvais genre est toujours le bon. Mauvais genre, il y a du sabbat, du mégalo et du toxique. Mauvais genre, c'est du bizarre, c'est du sado et de l'esprit. Angelier, il nous fabrique un train chimère qui mène un train d'enfer. Et ce train met en déroute le crétinisme et la mauvaise foi. Mauvais genre, y a du bizarre, y a du porno et des orgies. Mauvais genre, pas de tabou, c'est de la radio sans interdit. Et ce soir, nous célébrons l'anniversaire, 20 ans déjà. Mauvais genre, oui, on t'écoute et chaque fois, on est dans les étoiles.
Oh! Émotion, gratitude, reconnaissance.
à la réalisation des Papous dans la tête, Anne de Pelchin.
Merci à toutes et à tous.